Tiens. Imaginez un instant que vous soyez à la fin de votre vie. Quel regard porterez-vous alors sur votre vie? Que direz-vous? Quelles seront les paroles de conclusion du livre de votre vie? Quel constat ferez-vous? Je suis conscient que la gymnastique cérébrale que je vous propose ce matin n'offre pas la perspective la plus réjouissante, ni la plus enthousiasmante. Ceci dit, le scénario proposé est tout à fait plausible, n'est-ce pas? Ne nous voilons pas la face. Nous savons tous que nous nous retrouverons un jour au soir de notre vie. Et puis, ne sachant pas quand notre dernière heure sera venue, viendra, nous sommes toujours d'une certaine manière dans cette situation hypothétique. Il n'est donc jamais incongru de regarder en arrière et de faire un point de route, un bilan. Des regards sur sa vie, il peut y en avoir de toutes les sortes. Il y a ceux, à l'instar d'Édith Piaf, qui disent ne rien regretter. Non. Non, ça ne marche pas. Ça va venir. Ça va. On va attendre que la technique se mette au diapason. Voilà, formidable. Merci. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal. Tout ça m'est bien égal. Bien égal. Il paraît que lorsqu'Édith Piaf a entendu la chanson pour la première fois, elle aurait déclaré avec émotion devant nombre de ses proches et devant les auteurs de la chanson « C'est moi, c'est ma vie ». Dans une interview de 1962, elle confiait que si sa vie était à refaire, elle ne changerait rien. Et je cite ses paroles « Non, je ne changerai absolument rien. Je recommencerai exactement la même chose. Non, rien de rien. Je ne regrette rien. » Ce regard sur la vie est devenu plutôt tendance. Et il n'est pas rare d'entendre à la radio, sur un plateau télé, un people, une célébrité, affirmer tenir ce genre de discours. Ce type de propos m'interroge. Quand quelqu'un dit « je ne regrette rien », je ne peux m'empêcher de me demander « est-ce la vérité ? » Est-ce honnête de dire cela ? Est-ce lucide ? Est-ce pour se donner un genre ? Est-il seulement possible de ne rien regretter ? Est-ce souhaitable de ne rien regretter ? Impossible, bien évidemment, de répondre à la place de celles et ceux qui affirment qu'ils ne regrettent rien. À l'opposé de ceux qui ne regrettent rien, ou qui l'affirment en tout cas, il y a tous ceux qui ont des regrets. Et j'ai tendance à penser qu'ils sont largement majoritaires. Une infirmière australienne qui travaille peut-être toujours dans une unité de soins palliatifs, s'appelle Bronnie Ware, a rassemblé il y a quelques années dans un livre les dernières déclarations, les derniers souhaits et regrets des personnes qu'elle a accompagnées jusqu'à la mort. Le livre a été publié en 2012 en anglais et s'intitule en français « Les cinq regrets des personnes en fin de vie ». Et voici dans l'ordre ces cinq regrets qui correspondent à ce que ces personnes auraient fait différemment, selon leur dire, si on leur avait donné l'occasion. si la technique ne veut pas m'aider ce matin, ça va être difficile. Premier regret. Je regrette de ne pas avoir eu le courage de vivre ma vie comme je le voulais et pas celle que les autres voulaient pour moi. Deuxième regret. Je regrette d'avoir consacré trop de temps à mon travail. Troisième regret. Je regrette de ne pas avoir plus exprimé mes sentiments. Quatrième regret. Je regrette de ne pas être resté en contact avec mes amis. Et puis le cinquième regret, je regrette de ne pas m'être autorisé à connaître le bonheur. Alors je ne vais pas commenter tous ces regrets, il y aurait bien évidemment beaucoup de choses à dire. S'il y a ceux qui semblent ne rien regretter, il y a aussi ceux qui ont des regrets. Et dans cette catégorie-là, bien évidemment, il y a toute la palette. Depuis les petits regrets jusqu'aux regrets les plus profonds et les plus douloureux. Alors je reviens aux questions du départ. Imaginez un instant que vous soyez à la fin de votre vie. Quel regard porterez-vous alors sur celle-ci? Que direz-vous s'il vous est donné l'occasion d'y réfléchir à ce moment-là? Quelles seront les paroles de conclusion du livre de votre vie? Quel constat ferez-vous? Le passage que j'aimerais considérer avec vous ce matin parle d'un homme qui arrive au terme de sa vie. Il sait, il est conscient que sa mort est pour bientôt. Il en est conscient et il regarde en arrière. Et il affirme trois choses. Trois choses que j'aimerais méditer avec vous ce matin et qui nous font réfléchir. Pour ceux qui veulent suivre dans leur Bible, nous sommes dans la deuxième lettre à Timothée. Le texte va être aussi projeté. De Timothée 4, versets 6 à 8. Quant à moi, en effet, dit l'apôtre Paul, je suis déjà répandu en libation. Et le temps de mon départ est arrivé. J'ai mené le beau combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera en ce jour-là, et non pas seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront aimé sa manifestation. Quelques mots rapides. Sur le contexte. Vous le savez sans doute que l'apôtre Paul est en prison au moment où il écrit ces quelques lignes, et toute la lettre d'ailleurs, vraisemblablement à Rome. Et il écrit à Timothée, son enfant spirituel, son fils bien-aimé dans le Seigneur. Les conditions de cet emprisonnement, qui n'est pas le premier pour l'apôtre Paul, semble avoir été difficile. Quand on lit le texte, qu'on lit un petit peu entre les lignes, on comprend que la situation est difficile. Paul est enchaîné comme un criminel. Il souffre, et il le dit d'ailleurs, il exprime cette souffrance à plusieurs reprises dans cette lettre. L'apôtre a eu l'occasion de présenter sa défense devant un tribunal romain, mais il n'a pas été relâché. Et il ne fait maintenant plus aucun doute pour lui que la fin est proche. L'apôtre ne se fait plus aucune illusion sur l'issue de cette épreuve. Il sait que sa mort arrivera bientôt. Ses lettres à Timothée sont très personnelles. Il y avait à l'évidence une relation d'amitié profonde, sincère, entre ces deux hommes. Et plusieurs considèrent que cette deuxième lettre à Timothée est une sorte de testament spirituel que Paul lègue à son fils dans le Seigneur. L'apôtre veut lui donner quelques dernières recommandations. Il est temps de passer le relais. Il est temps de lui transmettre le témoin. C'est maintenant à Timothée de continuer, parce que pour Paul, le combat est achevé. La course est terminée. Maintenant lui est réservée la couronne de justice. Paul est donc au soir de sa vie et il utilise l'image de la libation, cette offrande liquide de vin ou d'huile que l'on répandait. Il utilise cette image de la libation pour parler de sa mort prochaine, de sa vie comme une offrande qui a déjà été répandue, sa vie qui est derrière lui. Et pour le signifier avec force, il utilise un temps en grec qu'on n'utilise pas en français, il utilise le parfait. Les trois verbes du verset 7 sont au parfait. Le parfait, on s'en approche un peu avec le passé composé en français. C'est un temps qui exprime une action ou un fait dans le passé qui est achevé. C'est terminé, ça s'est passé et complètement passé. En évoquant la perspective de sa mort prochaine, l'apôtre en parle donc dans ces termes-là. Et vous remarquerez que l'apôtre n'en parle pas comme d'une fin, mais comme d'un départ. C'est le mot qui est utilisé. Et le mot qui est traduit ici par départ dans le texte évoque dans l'original un bateau qui largue les amarres. Paul s'apprête à faire la grande traversée. Il s'apprête à lever l'ancre. Toutes des expressions qui sont bien évidemment des euphémismes pour évoquer la mort. Et c'est donc dans cette perspective de sa mort prochaine que l'apôtre Paul regarde en arrière et fait les trois affirmations du verset 7. J'ai mené le beau combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. L'apôtre résume ici en quelques mots toute sa vie, tout son ministère. Difficile de faire plus concis. En réalité, ces trois affirmations sont remarquables de concision, remarquables de force aussi. C'est un mini-discours d'adieu. C'est presque une épitaphe. Et nous, quel mot choisirions-nous pour résumer notre vie? Que pourrions-nous dire pour résumer notre vie avec le Seigneur, notre vie au service du Seigneur? Paul utilise ici apparemment deux images, celle du combat et celle de la course. Deux images qui nous disent quelque chose de la manière dont il comprenait sa vie chrétienne, son ministère. Il comprenait les choses, il la comprenait comme une course à achever, comme un combat à mener. Et moi, et vous, comment est-ce que je comprends ma vie? Comment est-ce que je comprends ma vie avec le Seigneur? Comment est-ce que je comprends mon service pour le Seigneur? Quelle image, s'il fallait en choisir une, décrirait au mieux ma vie, la façon dont je vis avec le Seigneur, la manière dont je sers le Seigneur? Le vocabulaire des images que Paul utilise ici est emprunté au jeu du stade. Ces images sportives, donc, sont des métaphores qui sont chères à l'apôtre et que l'on retrouve très fréquemment dans toutes ses lettres, à peu près. En tout cas, dans beaucoup de ses lettres. Paul parle de combat. Il parle de course, Mais en réalité, il parle d'une seule et même réalité, sa vie, son ministère. Il est même vraisemblable que le combat dont parle Paul ici, dans la première affirmation du verset 7, ne soit rien d'autre que la course dont il parle dans la deuxième affirmation. Il est vrai que Paul ailleurs parle de combat spirituel. Cependant, le mot qu'il utilise ici désigne un combat au sens d'une épreuve, comme toutes les épreuves qui étaient pratiquées lors des Jeux du stade. Alors, il y avait aussi de la lutte, bien évidemment, dans ces Jeux. Mais je prendrai ce matin le combat et la course dans notre texte comme étant synonymes. L'image du combat, me semble-t-il, traduisant au mieux, mettant en exergue, en lumière, certaines réalités plus exigeantes de la course, de la vie chrétienne et du ministère de l'apôtre Paul. Deux images donc, mais une seule réalité. Notons ensuite que l'apôtre ne parle pas juste de combat, mais de beau combat ou de bon combat. On peut traduire des deux manières. Et cette précision nous rappelle que tous les combats dans lesquels nous pouvons nous engager ne se valent pas. Ils ne sont pas tous à mettre au même niveau. En effet, des combats, des engagements, il y en a de toutes les sortes dans la vie. On peut combattre ses ennemis, ses voisins, ses collègues de travail, et j'en passe. Plus positivement, on peut combattre, lutter pour le respect de la dignité humaine, pour le respect des droits de l'homme, pour la liberté d'expression, pour l'émancipation des femmes, pour la préservation de l'environnement, pour la préservation de la biodiversité. Il y a tant de combats à mener sur cette terre. On peut aussi s'engager, lutter contre la pauvreté, contre la déforestation dans le monde, contre les inégalités sociales, toutes les injustices, et je pourrais pendant des minutes et des minutes allonger cette liste. Oui, il y a toutes sortes de combats, de luttes à mener sur cette terre, toutes sortes d'engagements dans lesquels nous pouvons nous investir et investir notre temps, notre vie. Et la question qui se pose à nous est la suivante. Quel combat faut-il mener? Quels combats sont dignes d'être menés? Comment choisir? Que choisir? Alors, loin de moi l'idée qu'il n'y a qu'un seul combat dans lequel le chrétien pourrait s'engager. Le chrétien est un citoyen du monde et il doit prendre pleinement, avec ses dons, avec ses capacités, avec ses affinités, il doit prendre pleinement sa place dans ce monde, dans son quartier, dans sa ville, dans son pays, dans le monde peut-être même pour certains. Et là où il s'engage, il devrait être un modèle. L'enjeu pour le disciple de Jésus n'est pas de ne mener que le bon ou le beau combat de la foi, mais plutôt de bien hiérarchiser ses engagements, ses priorités. Et dans cette hiérarchisation de ses priorités, je crois avec ce texte que c'est le bon combat, le beau combat de la foi qui devrait arriver en tête. Parce que tous les combats ne se valent pas. Tous les engagements ne sont pas à mettre sur le même plan. Et je crains que trop souvent dans nos vies, nous ne mélangions parfois nos priorités. Le bon ou le beau combat dont parle l'apôtre dans notre texte, c'est celui de la vie chrétienne. C'est celui de l'annonce de l'Évangile. C'est celui du service du Seigneur. Il est bon, il est beau parce que c'est le plus noble de tous. C'est le plus utile et c'est le plus grand. Lui seul va jusque dans l'éternité. Lui seul sert la cause la plus grande et la plus noble qui soit, l'annonce de l'Évangile, qui est une puissance, la puissance de Dieu, pour le salut de quiconque croit. La cause la plus noble. Le combat est aussi une course. Et c'est la deuxième affirmation du verset 7. Que nous enseigne cette image ? Elle nous enseigne à minima que la vie chrétienne n'est pas une promenade de santé. Ce n'est pas une balade au clair de lune, c'est une course. Et une course, ça demande de la préparation, ça demande de l'entraînement, ça demande de la discipline, ça demande des efforts, ça demande de l'endurance, ça demande de la persévérance. Une course implique que tous les efforts soient dirigés dans une même direction, vers la ligne d'arrivée, vers ce même but. La vie chrétienne est une vie d'engagement, d'effort, et l'image de la course traduit bien cela. Il y a des efforts, des luttes, de la discipline à avoir, mais il y a aussi, bien évidemment, de la joie. Du bonheur dans la vie chrétienne, il faut aussi le rappeler. C'est une réalité. Une réalité cependant qui ne doit pas nous empêcher de voir et de parler du côté exigeant de la vie chrétienne. Olivier y a fait allusion dans la première partie. Et nous pouvons noter que quand le Seigneur Jésus parle de la vie de disciple dans les évangiles, c'est souvent, pour ne pas dire toujours, le côté exigeant qui est mis en avant. Il compare la vie chrétienne à un chemin étroit. Un chemin étroit où il y a des renoncements à faire. Un chemin étroit où il y a un reniement de soi à opérer. Un chemin étroit où il y a une perte de vie, de sa vie à accepter. Un chemin étroit où il y a une croix à porter. Un chemin étroit où il y a un opprobre à supporter. Oui, la vie chrétienne est comme une course. Et Paul dit ici qu'il l'a achevée, terminée. Vous notez avec moi qu'il ne dit pas qu'il l'a gagnée la course, mais il dit qu'il l'a achevée. La vie chrétienne n'est pas une course au sens d'une compétition. Nous ne sommes pas en compétition, et encore moins en compétition les uns avec les autres. Au contraire, c'est l'entraide, l'amour du prochain, l'amour fraternel qui doit primer dans cette course. Nous sommes engagés, si nous sommes disciples du Seigneur, tous dans la même course, où l'important n'est pas de gagner. C'est pas même juste de participer. L'important, c'est de finir. Et de bien finir. C'est ce que Paul dit ensuite quand il affirme « J'ai gardé la foi ». On peut comprendre la foi ici de deux manières. Il y a la foi qui est le contenu de ce que nous croyons, qui est ce que nous croyons. C'est le bon dépôt que Paul exhorte Timothée à garder au début de cette même lettre. Il s'agit alors de fidélité à l'enseignement du Christ, fidélité à l'enseignement des apôtres. Il s'agit de saine doctrine. On peut aussi comprendre la foi dans le sens de fidélité, de loyauté par rapport à l'engagement chrétien. C'est alors l'idée de persévérance, d'aller jusqu'au bout, d'achever la course, de tenir son engagement au Christ, de fidélité. Je ne crois pas qu'il soit nécessaire de trancher entre les deux. Je pense que les deux sont vrais et les deux peuvent être compris ici. Garder la foi, c'est à la fois garder le bon dépôt qui nous a été transmis et c'est aussi persévérer jusqu'au bout. Après les trois affirmations du verset 7, l'apôtre Paul va laisser aller son regard au-delà de la ligne d'arrivée. « La course est achevée, dit-il. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. » De quoi s'agit-il ? Ce n'est pas une couronne qui donnera la justice, qui nous justifiera, parce que ça, nous le sommes déjà si nous sommes en Christ. L'apôtre Paul écrit dans l'Épître aux Romains au chapitre 5, « Étant donc justifié en vertu de la foi, si j'ai la foi dans le Christ, je suis justifié, je suis déclaré juste par Dieu. Étant donc justifié en vertu de la foi, nous sommes en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. » La couronne de justice dont il est question ici est la récompense d'une vie de justice, c'est-à-dire d'une vie qui a été justifiée par la foi. L'apôtre Jacques, dans son épître, parle aussi de couronne. Pas de couronne de justice, mais de couronne de vie, dit-il. Jacques, chapitre 1, verset 12, « Heureux l'homme qui endure l'épreuve. En effet, après avoir été éprouvé, celui-là recevra la couronne de la vie qu'il a promise à ceux qu'il aime. » J'aimerais, en faisant converger ces deux textes, suggérer que la couronne qui est promise ici est simplement la vie éternelle, la récompense d'une vie de justice, la récompense pour celles et ceux qui auront achevé la course, qui auront gardé la foi. Cette récompense est leur héritage. Imaginez un instant que vous soyez à la fin de votre vie. Imaginez un instant que vous deviez larguer les amarres aujourd'hui pour faire la grande traversée. Quel regard porterez-vous sur votre vie ? Que direz-vous ? Quelles seront les paroles de conclusion du livre de votre vie ? Quel constat ferez-vous ? Êtes-vous engagé dans le bon, le beau combat de la foi ? Cet engagement-là, est-il la priorité de votre vie ? Si vous courez, et nous courons tous, à longueur de journée, si vous courez, est-ce que vous courez dans la bonne course ? Est-ce que vous êtes dans le bon stade ? Et puis êtes-vous déterminé ? Déterminé à aller jusqu'au bout, quel qu'en soit le prix ? Si nous pouvons envisager de persévérer jusqu'au bout, c'est parce que le Seigneur lui-même s'est engagé à nos côtés. C'est parce que le Seigneur lui-même a promis d'achever en nous la bonne œuvre qu'il a commencée et de l'achever, de la rendre parfaite, dit le texte, au jour de Jésus-Christ. Si nous pouvons envisager de persévérer jusqu'au bout, c'est parce que le Seigneur fera primer sa grâce sur tous nos manquements, parce que nous avons mis notre foi en Jésus-Christ. C'est pourquoi nous pourrons aller jusqu'au bout. C'est pourquoi nous pourrons combattre jusqu'au bout le beau et bon combat de la foi. C'est pourquoi nous pourrons achever la course. C'est pourquoi nous pourrons même garder la foi. Et c'est pourquoi nous recevrons la couronne de justice, la couronne de vie. Et puis c'est aussi pourquoi nous pouvons nous exhorter aujourd'hui et tous les jours de notre vie, à la persévérance. Ne t'arrête pas en chemin, dit le chant que nous allons chanter. Tu es sur la route, tu es dans le stade, tu es dans la course, et tu n'es plus très loin. Ne t'arrête pas en chemin, tu es engagé, et il te tient par la main. Jusqu'au bout. Va jusqu'au bout. Je vous invite à vous lever pour chanter maintenant ce chant comme la conclusion de ce message, comme l'expression de notre foi et de notre confiance en Dieu. Et c'est pendant ce chant aussi que des boîtes vont circuler dans les rangs, des boîtes qui sont destinées à recueillir les offrandes de celles et ceux qui ont à cœur de le faire. Chantons.
Ne t'arrête pas en chemin, tu as pris la route et tu n'es plus très loin. Ne t'arrête pas en chemin, tu t'es engagé, il te tient par la main. Jusqu'au bout, oh, va jusqu'au bout, jusqu'au bout, oh, va jusqu'au bout. Même s'il est long le chemin, même si ton ciel n'est pas chaque matin, clair et sans ombre à l'horizon, tu t'es engagé, il te tient par la main. Jusqu'au bout, oh, va jusqu'au bout, jusqu'au bout, oh, va jusqu'au bout, jusqu'au bout, oh, va jusqu'au bout. Jusqu'au bout, on va jusqu'au bout. L'ange l'éternel, qui campe auprès de ceux qui aiment Dieu, tu n'es jamais seul en chemin. Tu t'es engagé, il te tient par la main. Jusqu'au bout, on va jusqu'au bout. Jusqu'au bout, on va jusqu'au bout. Jusqu'au bout, on va jusqu'au bout. Jusqu'au bout, on va jusqu'au bout.
Merci de prendre place pour le temps des annonces. Nous allons poursuivre notre journée ensemble, pour ceux qui le souhaitent, bien évidemment. Tout d'abord par une agape, repas où nous mettons en commun ce que les uns et les autres ont apporté. Vous êtes tous invités à y participer, que vous soyez venus les mains pleines ou les mains vides. Si vous pouvez rester, nous serons heureux de partager ce temps ensemble. Et puis, aux alentours de 14 heures, le culte n'est pas très long ce matin, donc je pense que 14 heures est un horaire réaliste, nous aurons notre assemblée générale. Une assemblée générale, en théorie, ça ne concerne que les membres de l'association. Alors, il y a des membres, il y a des personnes qui ne le sont pas. Bien sûr, les non-membres ne peuvent pas voter, mais vous êtes les bienvenus pour participer à la vie de l'Église aussi de cette manière, entendre ce qui sera discuté, voter aussi. Vous êtes donc les bienvenus si vous le souhaitez. Il y a des pouvoirs qui sont disponibles à la sortie pour ceux qui ont d'autres obligations. Merci de les remplir pour être représentés. Vous ne trouverez pas les canevas pour la rencontre de quartier ou les rencontres de quartier de la semaine prochaine. Ils vous seront envoyés par courrier électronique en début de semaine. Si vous ne les recevez pas, d'habitude, c'est que vous n'êtes pas sur ma liste ou dans ma liste d'envoi. Alors, si vous souhaitez les recevoir, il faut me le dire pour que je puisse vous ajouter. Je ne l'envoie pas systématiquement à tout le monde, je l'envoie à ceux qui me l'ont fait savoir. Donc, si vous souhaitez recevoir le canevas, merci de me l'indiquer. Je suis juste en train de penser qu'il serait plus simple de l'envoyer à tout le monde, et comme ça, ça éviterait... Bon, peut-être que je vais corriger ça. Vous trouverez aussi, vous l'avez pour beaucoup déjà vu, la feuille du mois de février qui est disponible à l'entrée. Je rappelle aussi qu'elle est sur le site de l'Église, donc vous pouvez consulter si vous avez les identifiants qu'il faut pour aller dans la partie réservée. Quelques annonces diverses maintenant. C'est la période de l'année où on parle de cotisation. Alors, ce n'est pas l'annonce que je préfère faire, mais voilà, ça fait partie aussi de la vie des différentes associations qui sont représentées dans l'Église. Et vous savez qu'en plus de l'association Q cultuelle. Il y a deux associations, il y en aura même une troisième dont on parlera cet après-midi, mais il y a La Source, notre centre de vacances, et puis Aide et Espoir, l'association qui nous permet de mener nos actions humanitaires et sociales. Beaucoup sont membres, mais au dire des trésoriers, pas assez. Donc si vous êtes membre, merci de penser à renouveler votre cotisation. Et puis si vous n'êtes pas membre, je dis ce que j'ai mis dans la feuille du mois, je vous encourage à devenir membre, les sommes ne sont vraiment pas importantes, mais c'est une manière toute concrète de participer aux actions qui nous tiennent à cœur, certaines des actions qui nous tiennent à cœur dans l'Église. Il y a encore aujourd'hui la possibilité de vous procurer les nouveaux annuaires, le nouvel annuaire 2016. Delphine se tiendra à votre disposition si jamais vous souhaitez en acquérir un. Il y aura aussi des cartes à signer, vous savez maintenant comment ça fonctionne. Il y a une feuille d'inscription pour une chorale qui a été mise au panneau d'affichage. C'est très ponctuel, c'est une chorale uniquement pour le culte de Pâques. Le culte de Pâques aura lieu le 27 mars et nous aimerions cette année un petit peu étoffer notre célébration de Pâques. On met beaucoup d'énergie autour de Noël et souvent Pâques passe un petit peu inaperçu et on aimerait en tout cas que le culte de Pâques, pour ceux qui pourront être là, soit un petit peu plus fourni que d'habitude. Donc il y a une feuille d'inscription, allez-y, inscrivez-vous, 3 ou 4 répétitions maximum, 2, 3, 4 chants, je ne sais pas, on verra avec les personnes présentes. Il y a une première répétition qui a été prévue, c'est le 11 février à 20h, et là, la suite du programme sera déterminée. Vous trouverez aussi au panneau d'affichage une lettre d'information concernant un projet d'école chrétienne sur la ville de Nîmes qui est en cours depuis quelques années et qui est en train de se préciser. Tout ça est chapeauté par une association et vous pouvez en devenir membre si vous le souhaitez. Toutes les informations sont au panneau d'affichage. On aura peut-être l'occasion d'en parler avec plus de détails à un autre moment. Il y a des choses à dire concernant les camps et les colos de cet été, et je passe la parole à Paul Granier, qui sera le directeur de la colo au mois de juillet.
Bonjour à tous, je vais essayer d'être rapide. Les séjours se préparent. Les séjours se préparent, il y en a au moins 2 qui auront lieu cet été, un pour les pré-ados sur la mi-juillet et un pour les enfants à La Source, le centre de vacances de l'Église, à partir du 17 juillet. Nous avons juste un petit problème, les enfants ont commencé à s'inscrire et il faut des adultes pour les encadrer et les accueillir. Nous sommes donc à la recherche à la fois d'animateurs et animatrices, si possible diplômés, mais aussi de personnel, là, sans qualification particulière, qui serait disponible sur la quinzaine pour faire la cuisine, le ménage et aider les enfants aussi dans leur vie quotidienne. Vous n'hésitez pas à prendre contact avec moi ou alors avec la direction de l'association, avec Yasmina par exemple, pour faire part de vos candidatures et nous serons contents de vous accueillir.
Merci beaucoup, c'était concis. Nous avons aussi appris cette semaine le décès du frère de Daniel Malachan et d'Evelyne Pérus. Les obsèques ont eu lieu en fin de semaine et nous voulons aussi leur dire toute notre sympathie et prier pour toute la famille. Et puis aujourd'hui, pour une personne parmi nous, c'est le dernier culte qu'elle vit avec nous avant de partir.